Amen la grâce puissance agissante qui nous sauve. On va encore prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Cette grâce que tu nous as envoyée, que tu nous maintiens toujours. Merci Seigneur, sois béni pour ta parole, instruis-nous de toi ce matin. Donne-nous la foi pour recevoir ta parole. À moi la foi pour la donner, à mes frères et sœurs la foi pour la recevoir, pour la garder, pour la transmettre ensuite eux-mêmes. Merci Seigneur. Bénis nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin, encourage-les, renouvelle-les. Va encore une fois les chercher, Seigneur Jésus, s'ils sont égarés. Merci pour tous ceux qui s'assemblent en ton nom, pour tous ceux qui te louent, t'adorent et t'obéissent sur la face de la terre. Amen. Dans le psaume 107, il est écrit que « Il envoya sa parole et il les guérit ». C'est la fonction de la parole de Dieu de nous guérir. Et elle nous guérit lorsque nous nous savons malades et que nous avons besoin de cette parole. Nous en sommes conscients. Mais elle nous guérit aussi pour des maladies que peut-être nous ne discernons pas ou discernons plus. Il y a des fois, on est tellement habitué à être malade qu'on ne cherche plus à guérir. Et c'est probablement le cas pour l'orgueil. Aujourd'hui, le Seigneur vous envoie sa parole pour que vous soyez guéris de l'orgueil. Et pour que vous soyez guéris de l'orgueil, il vous dit une chose très simple, soyez humble. De nombreux passages nous invitent à l'humilité dans l'Écriture. Je vous lis deux proverbes en introduction. 15:33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et au chapitre 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Allez, je vais encore vous lire le 29, verset 23. « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Si l'homme ne veut pas tomber dans la ruine, son cœur ne doit pas s'élever. C'est ce que nous avons vu au chapitre 18. Et la manière de ne pas s'élever, c'est de rester dans la crainte de l'Éternel pour recevoir de lui la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Le Seigneur veut vous enseigner la sagesse, vous rendre humble et ainsi vous amener à la gloire. L'humilité conduit à la gloire. C'est la condition sine qua non pour recevoir, en fait, le bénéfice de la gloire de Dieu, car de gloire, il n'y en a qu'en Dieu seul. Seul Dieu est glorieux. Et il veut la garder indemne, cette gloire, indemne de toute concurrence. Personne ne peut concurrencer Dieu quant à la gloire, bien sûr. Qu'elle soit angélique ou humaine, le Seigneur dit « Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et le croyant, bien sûr, adhère totalement à cela, non pas à nous, psaume 115, verset 1, Il n'y a même pas d'introduction à ce psaume d'ailleurs. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous sommes d'accord avec le fait que ce soit Dieu qui est dans la gloire et qui doit recevoir la gloire. Cependant, l'intention du Seigneur n'est pas de garder cette gloire pour lui-même, tout en la préservant, il désire la partager. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 10, au sujet de l'œuvre du Fils de Dieu, qu'il voulait, que Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alors, si c'est Dieu qui nous conduit à la gloire, celle-ci ne sera pas volée, elle ne sera pas dénaturée, mais elle sera au contraire amplifiée. Et pour cela, Dieu cherche les humbles. L'Éternel est bon et droit, psaume 25, versets 8 et 9. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Là, je suis revenu dans un proverbe au chapitre 3. Cette parole, cette pensée est reprise par les apôtres. Jacques, Pierre, je vous lis deux passages. L'un dans Jacques, je suis obligé de lire le contexte, donc je lis versets 1 à 12 du chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et puis Pierre également, dans sa première épître, les versets 1 à 10. Du chapitre 5. Voici donc les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui donc avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On pourrait bien sûr étudier d'ailleurs comparativement ces deux passages de Jacques et de Pierre qui se complètent, qui se rejoignent. Notre conversion n'a été possible que dans l'humilité. Je ne pense pas que quelqu'un ici va dire le contraire. Ce n'est pas par orgueil que vous êtes venu au Seigneur, je pense. Vous le savez, bien sûr, vos cœurs ont dû s'humilier devant Dieu pour recevoir le message du salut. Vous avez abandonné votre prétention à votre propre justice et toutes les erreurs qui y sont associées pour recevoir le pardon de Dieu. Êtes-vous tous des pardonnés du Seigneur aujourd'hui? Avez-vous reçu le pardon que le Seigneur veut et a préparé pour vous? Quelle que soit l'intensité, d'ailleurs dramatique, de votre conversion, car certains font des expériences émotionnellement dures lors de la conversion, pour d'autres, ça semble plus facile. Mais vous vous êtes trouvé de toute façon dans cet état d'âme où c'est Dieu et non vous-même qui était reconnu comme digne, bon, juste et saint. Et vous avez été réconcilié par le sang de la croix. C'est cela le départ de votre vie chrétienne. Alors cette expérience a été rendu possible par un enseignement. Mais l'enseignement en soi ne convainc pas. La grandeur, la force de l'Évangile, c'est celui qui est le maître de l'Évangile. C'est celui qui a donné sa vie pour les humains. Celui qui vous a convaincu, c'est le Fils de Dieu, c'est l'enseignant lui-même, ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement est une partie, mais l'enseignement donné par l'enseignant. C'est lui qui est venu partager votre humble condition. C'est comme cela qu'il a pu vous enseigner l'humilité, en paraissant comme un simple homme. Ce simple fait que Jésus soit paru dans la chair est en soi le fondement du message de l'humilité et de votre conversion à Dieu. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. De Corinthiens chapitre 8 verset 9. S'est fait pauvre. L'humilité dans l'Ancien Testament, les humbles, ce sont aussi et surtout dans l'Ancien Testament les personnes de condition modeste, les pauvres. Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Quitter la gloire par l'incarnation a été la première étape de l'humiliation volontaire de notre Seigneur. Jésus de Nazareth a vécu avec les humbles, les gens de condition modeste, étant nés dans une étable à Bethléem, ayant été soumis à ses parents, ayant travaillé comme charpentier. Lorsqu'il a recruté ses disciples, il n'est pas allé chercher chez les savants ou les gens bien installés, mais chez les simples artisans pêcheurs. Il a développé tout son ministère sans un lieu où reposer sa tête, dépendant, signe d'humilité particulier du Seigneur, dépendant de l'assistance de quelques femmes qui le suivaient. Il est écrit dans l'Évangile qu'il l'assistait de leur bien. Et quand il s'est présenté comme roi, selon la prophétie, ça a été assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse, Zacharie 9:9, repris dans l'Évangile selon Matthieu, avec cette précision plein de douceur. Matthieu 21, verset 5. Je vous le lis dans le texte. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et c'est ainsi qu'il a été acclamé. Que les disciples allèrent, firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, le firent asseoir dessus. Et la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » C'est ainsi que nous connaissons Jésus, dans son caractère d'homme, fils de Dieu. Et c'est pourquoi nous répondons à son appel avec confiance lorsqu'il nous envoie cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez. Car je suis doux et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà comment Jésus nous appelle à venir à lui, qui est doux et humble de cœur. Et nous pouvons sans crainte alors venir à Jésus et être instruit de lui. Car son caractère même est le gage de son enseignement. La condition humaine de Jésus, le caractère qu'il a manifesté, et enfin, et bien sûr suprêmement, ses souffrances témoignent de son humilité, avec une parfaite volonté à la soumission de son Père. Jésus était dans l'obéissance lorsqu'il a donné sa vie. Avant d'entrer dans la gloire, pour y être reçu, accompagné de tous les enfants de Dieu rachetés, le Seigneur a connu l'humiliation par son obéissance. Bien sûr, Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, bien qu'existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si le Seigneur nous a rejoints et a été au plus bas de l'humiliation, nous sommes appelés à le rejoindre dans ses sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous apprenons de lui pour notre propre vie. Et nous pouvons totalement compter sur lui lorsque nous sommes humiliés par l'épreuve. Car il a été à ce point qu'il a, Épître aux Hébreux chapitre 5, dans les jours de sa chair, présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jusque-là, il est allé à devoir supplier le Père de le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, le chapitre 2, verset 10 nous dit, par les souffrances, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Pour avoir obéi de cette manière-là, le Seigneur nous a sauvés. Il peut maintenant nous accorder le salut et nous élever nous-mêmes dans la gloire. Alors, frères et sœurs, nous ne sommes jamais vraiment quittes avec l'orgueil et nous devons donc prendre très au sérieux toutes les exhortations à rester dans l'humilité et même à la cultiver. D'une part, par la contemplation dans l'esprit, par la prière, par la méditation, par ce que je fais là avec vous ce matin, la contemplation de Jésus-Christ, la communion avec ce Seigneur, son Esprit Saint, ne peut que nous conduire dans l'humilité. Et secondement, par les bonnes réactions dans la vie, dans l'épreuve de la vie, parce que c'est là que nous allons être mis à l'épreuve concernant cette humilité que nous voyons dans le Seigneur et qui peut nous donner la gloire, mais que nous ne possédons pas naturellement. Et parfois, je relève ces points, mais il y a bien d'autres choses qui pourraient être méditées à ce sujet. Je vous dis le principal de ce qui m'est venu à l'esprit et de ce que vous expérimentez. Parfois, c'est autrui qui cherche à nous humilier par des paroles tenaces. Nous sommes attaqués dans un but d'humiliation. Et ce n'est pas trop efficace, parce que notre tendance, c'est à ce moment-là plutôt la réaction d'orgueil, précisément, ou inversement, nous sommes anéantis par la moquerie, c'est possible. On peut soit se rebeller contre ce mépris, soit se laisser anéantir par lui. Dieu ne veut ni l'un ni l'autre, et nous avons besoin du bouclier de la foi pour que ce genre d'humiliation n'induise pas des comportements délétères, ravageurs. Vraiment, nous avons besoin de nous confier dans le Sauveur, dans notre Sauveur, quand nous le connaissons, pour justement ne pas céder à ces flèches du diable qui nous atteignent par ce moyen d'autrui. Parfois, c'est même involontairement qu'il le fait, mais le fait est là qu'il nous attaque dans le sens de nous blesser. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un s'adresser à vous durement pour vous humilier ? Des réactions qui nous surprennent parfois, mais d'où vient cette volonté d'agir comme ça à l'encontre de nous? Mais régulièrement, ce sont des choses qui arrivent. D'autres fois, c'est nous qui nous humilions nous-mêmes. Bien sûr, il y a toutes sortes de cas de figure, mais nous pouvons nous humilier par une ambition démesurée ou par une simple initiative maladroite parfois. Et puis nous sommes placés devant une bévue, un échec. Et cette humiliation-là est propre à nous amener à l'humilité dans le sens où, nous étions cru capable et finalement nous y sommes passés à côté, nous avons vraiment été inefficaces, stériles, voilà, nous nous humilions assez régulièrement nous-mêmes et nous avons besoin à ce moment-là de ne pas nous réduire justement à cette bévue, et à relever la tête, nous confier dans le Seigneur. L'écueil, dans ce cas-là, c'est plutôt le dépit et la pitié de soi qui peut s'emparer de nous. Nous avons besoin de reconnaître, que cette fois-là, nous avons été un peu stupides, maladroits. Mais une fois cette leçon prise, relever la tête et reprendre la marche avec confiance. Et puis troisièmement, c'est la vie elle-même qui nous humilie. Bien sûr, par des circonstances contraires, par des événements fâcheux, les hommes et les femmes de foi passent tous par ces situations où, comme il est écrit au psaume 107, toute leur habileté était anéantie. On a beau faire, on a beau essayer, on a beau vouloir s'en sortir, la situation est plus forte que nous, l'épreuve est trop grande et nous n'arrivons pas à y faire face. Dans ce cas-là, effectivement, il nous faut simplement nous approcher humblement du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Parce que nous devons constater que nous n'avons pas la capacité de nous sortir nous-mêmes de cette épreuve. Voilà, ce sont quelques points de repère qui peuvent être repris et développés, augmentés par d'autres pensées ou réflexions dans différents messages. J'avais à cœur, en préparant ce matin, de vous citer un exemple d'un homme qui a été humble, c'est Jonathan dans la Bible. Vous savez, le fils de Saül, Jonathan était destiné à la royauté. En tant que fils aîné de Saül, c'est à lui que revenait le trône. Mais lorsque l'Éternel a choisi David, et avant même que David soit roi, Jonathan s'est effacé face à David. Jonathan a lié son cœur au serviteur de Dieu. Il a reconnu en lui, loin de l'Éternel, et il a, par un geste particulier, déclaré qu'il abandonnait, lui, la prétention à toute royauté pour laisser à David. Donc il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il s'est soumis au verdict du Seigneur. C'est un très bel exemple d'humilité. Alors, frères et sœurs, nous sommes tous ensemble ce matin en partageant, j'espère et je le crois, les sentiments d'humilité que le Seigneur nous a accordés, nous a fait la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors nous sommes ensemble humbles devant le Seigneur et nous sommes ensemble humbles les uns devant les autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. J'espère que ce matin nous partageons ce sentiment. Et là, le Seigneur va guérir nos cœurs de bien des souffrances, de bien des blessures. Il est libre d'agir lorsque nous sommes dans l'humilité devant lui tous ensemble. Amen.